Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode podcast Resolve. Donc chez Resolve, notre simple conseil s'arrête pas simplement au financement hypothécaire. On aime bien avoir une approche à 360 degrés où on parle de financement, de prévoyance et aussi de fiscalité. Ça va être un petit peu le sujet du jour. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Joachim d'Études Léax à Neuchâtel, donc conseiller fiscaliste. Et aujourd'hui, on va aborder deux grandes réformes finalement qui vont un petit peu changer le marché immobilier suisse ou en tout cas refondre tout ça. Donc, on va aborder l'évolution de la valeur locative et la position individuelle pour les couples mariés. Du coup, ça fait des années qu'on en parle concernant la valeur locative. Ça y est, c'est enfin aboli, si on peut dire ça comme ça. Donc, ça sera pour le 1er janvier 2029. Et justement, par rapport à ça, donc c'est devenu une vraie réalité qui se précise, alors que personne n'y croyait vraiment, en tout cas. Déjà, peut-être, je vais te laisser te présenter et ensuite, peut-être qu'on enchaînera sur quelques questions.
Oui, volontiers. En effet, je travaille au sein de l'étude Léax Avocat à Neuchâtel. Et puis, on a une étude qui est active en droit des affaires. Et puis, également, on gère tous les aspects fiscaux, on va dire, pour nos clients. Ça va de la déclaration d'impôt à la restructuration de groupe, à la planification successorale, à l'anticipation des transferts aussi au sein de la famille, mise en place de sociétés immobilières. Donc, on a un panel assez large. Et puis, moi, ça fait une quinzaine d'années que je travaille en fiscalité. Et puis, évidemment, moi, j'ai suivi aussi ces deux réformes qui ont été votées récemment.
Ok, super, super. Donc, rentrons directement dans le vif d'un léger. Du coup, la valeur locative, qu'est-ce que c'est? Et surtout, où en est-on?
Oui, alors en effet, c'est un texte donc qu'on a voté relativement récemment. Le texte en fait visait à introduire un nouvel impôt sur les résidences secondaires, avec en fait l'effet complémentaire de supprimer ou d'abolir la valeur locative. De manière très résumée, le principe de la valeur locative, c'est d'avoir en fait un revenu fictif sur un bien immobilier que tu détiens et qui n'est pas en quelque sorte loué à un tiers. Et puis ça vient augmenter l'imposition. On va dire le pendant de cette imposition de valeur locative, finalement, c'est aussi de pouvoir déduire d'autres éléments, typiquement les intérêts hypothécaires, les frais d'entretien, aussi les impôts, hein, typiquement les impôts fonciers. Et puis, l'abolition de la valeur locative, en fait, va amener aussi une suppression de toutes ces déductions, qui peuvent avoir des impacts, alors notamment pour les propriétaires immobiliers, bien sûr, mais aussi pour les personnes qui n'ont pas de bien immobilier. On pense toujours, typiquement, hein, qu'on dit les intérêts passifs, c'est les intérêts hypothécaires, mais c'est aussi les intérêts commerciaux de tout type, typiquement sur des emprunts. Donc, on a aussi cet effet, relativement négatif. On a des légères mesures de compensation. On parle de la déduction des intérêts pour les primo-acquéreurs, hein, donc ils pourront continuer à amortir leurs intérêts sur un certain délai. Et puis, au niveau cantonal aussi, on aura toujours, mais ça va dépendre de la décision des cantons, certaines déductions pour les frais d'entretien en vue d'économiser de l'énergie. C'est important de le dire parce qu'il y a cette approche un peu contradictoire, hein, de plus pouvoir déduire certains frais, mais on nous demande quand même de respecter certains objectifs en matière de climat et puis énergétique, jusqu'en 2050. Et donc le fait d'empêcher certaines déductions de ce type et puis en même temps d'exiger en fait une amélioration du parc immobilier général, ça va un peu en contradiction. Et puis bien sûr, autour de cela, il y a aussi cet impôt immobilier complémentaire qu'on va introduire. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'informations qui circulent de manière plus précise. Tu l'as dit, et c'est assez récent, parce que ça date du 1er avril. Maintenant, on sait que la valeur, ou plutôt l'abolition de la valeur locative et les mesures qui l'accompagnent, rentreront en vigueur au 1er janvier 2029. C'est déjà une première information positive, parce qu'on s'attendait à ce que ça rentre en vigueur en 2028. Donc, on gagne une année, si je peux dire comme ça, en termes de planification. Mais il va falloir aller assez vite pour tous les contribuables qui sont concernés pour prendre des mesures, en fait, qui sont encore favorables avant l'entrée en vigueur de cette réforme.
Ok, super. D'ailleurs, tu t'en as parlé tout à l'heure qu'on ne pourra plus déduire, etc.
Oui.
On dit souvent que c'est un petit peu un cadeau empoisonné pour les propriétaires.
Oui.
Justement, pour les primo-accédants, ceux qui ont acheté il y a pas si longtemps finalement, et du coup, bah, pour les 15 prochaines années qui pensaient déduire, souvent bah, aussi avec une hypothèque importante,
oui.
Ainsi que bah, les propriétaires romands pourraient entrer, ça pourrait être en réalité finalement les grands perdants de tout ça. Et toi, qu'est-ce que tu partages cet avis-là? Est-ce que voilà.
Oui, alors je dirais c'est toujours difficile de se positionner d'une manière globale parce que chaque cas est très 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 particulier. C'est vrai que dans les grands perdants en guillemets de cette réforme, on va dire il y a déjà toutes les personnes qui ont acquis un bien qui est vétuste ou qui nécessite beaucoup d'investissement. Pour ces personnes, il va falloir planifier de manière très rapide, donc jusqu'à fin 2028, en fait, des travaux d'entretien qui sont déductibles. Et puis, passé le 1er janvier 2029, de nouveau, seuls potentiellement seront déductibles les frais d'entretien pour les résidences principales hein, ou les résidences secondaires pour économiser de l'énergie. Donc ça, c'est sous réserve encore de la position qui sera prise par le canton de situation de l'immeuble. Ensuite, en effet, on pense aux primo-acquérants, ou plutôt aux jeunes hein, qui acquièrent ou qui accèdent à la propriété au logement, parce qu'ils sont fortement, ou plutôt souvent fortement endettés. Ça veut dire qu'on apporte un minimum de fonds propres. Souvent, on entit la caisse LPP, donc on emprunte fortement. Et du coup, on est aussi dans une période où les taux d'intérêt ne sont pas ce qu'ils étaient il y a quelques années. Ils sont quand même légèrement relevés aujourd'hui. Donc, ça veut dire des intérêts passifs lourds, qui seront potentiellement pas ou peu déductibles. Et puis, c'est vrai qu'en Romandie, bah, on a un marché aussi qui se resserre. Hein. On a des prix qui sont relativement élevés comparés aussi à la Suisse en général. Donc, c'est vrai que toutes les mesures d'optimisation, le levier fiscal, en fait, que permettait avant la déduction de ces frais contre une valeur locative, va être supprimé, ce qui sera relativement négatif pour ces jeunes primo-acquérants avec des biens peut-être qui nécessitent des transformations. A contrario, on aura aussi peut-être une perte de valeur pour ces biens, hein, parce qu'on n'aura plus cet effet fiscal. Et puis, finalement, les gens qui seront relativement avantagés, c'était aussi le but de la réforme, c'est souvent les personnes qui auront beaucoup amorti leurs biens immobiliers. On pensait typiquement aux retraités, hein, qui ont passé leur vie à amortir ces biens immobiliers. Donc, peu de dettes, peu d'intérêts, potentiellement peu d'entretien. Eux, dans leur déclaration fiscale, c'est sûr que globalement, ils auront un avantage parce qu'ils auront plus ce revenu fictif qui est la valeur locative.
Ok, super. T'as juste avant de revenir sur la déduction, enfin sur les déductions, en financement, c'est vrai qu'on craint que ben, les personnes qui ont acheté et qui pourront, ben, en fait, finalement, déduisent au maximum leurs dettes et mettent tout leur capital, leurs capitaux, dans leurs dettes et du coup, dans la pierre. Je suis pas persuadé que c'est une très bonne stratégie. Est-ce que toi, tu aurais une stratégie peut-être un peu plus mixte à partager?
Oui, je pense qu'il faut pas partir dans une approche qu'on pourrait appeler de l'hyper-amortissement. Je veux dire, l'important, en fait, c'est aussi de planifier globalement sa structure. Tu l'as dit, c'est d'avoir une approche 360 degrés. On peut pas juste s'orienter sur un amortissement excessif pour des raisons fiscales. Le risque aussi d'investir pleinement ou exclusivement dans la pierre, notamment si on n'a qu'un bien en résidence principale, c'est de rencontrer un problème aussi à la retraite, hein, en termes de besoins de liquidité, de dépenses, de frais. Et puis, globalement aussi, il faut garder à l'esprit que de l'argent qui peut être placé, donc non investi dans la pierre, peut générer aussi des rendements. Et souvent, ces rendements, ils sont supérieurs à l'intérêt hypothécaire que l'on va payer. Donc globalement, c'est clair qu'en matière de fiscalité, le rendement, il est imposé. On peut plus déduire ses intérêts passifs, mais on a meilleur temps d'avoir une stratégie, enfin, de pas placer tous ses œufs dans le même panier, je dirais, puis d'avoir, voilà, potentiellement un amortissement qui est aujourd'hui plus important que ce qu'on faisait par le passé. C'est vrai qu'avant, on cherchait à avoir un endettement, pas maximal, mais relativement important. Et puis, peut-être d'amortir partiellement sa dette. Et puis ensuite, de placer son argent typiquement sur des titres, des actions, des ETF ou d'autres produits qui pourraient ramener des rendements.
Ok, on en reviendra tout à l'heure à ça. Et justement, bah, c'est vrai que voilà, nous, nos clients en général, c'est des familles avec ou sans enfants. C'est souvent des gens qui ont besoin de stabilité, au moins pour les 10 prochaines années. Donc, c'est souvent des gens finalement qui bloquent à 10 ans, parce que on s'est rendu compte ces dernières années que l'écart entre entre finalement les taux à 10 ans et des taux peut-être à plus court terme, il n'y en avait pas. Donc, ils ont privilégié la sécurité. Et tout à l'heure, du coup, tu parlais des déductions. Et finalement, ces gens qui ont bloqué sur 10 ans, concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour eux, en fait?
Oui, alors malheureusement, en tout cas, sur la base de la réforme et puis moi, des informations que j'ai, il n'y aura pas de mesure particulière. La seule mesure particulière qui est prévue pour ce qu'on appelle justement ces primo-acquéreurs, c'est une déduction partielle des intérêts passifs. Okay. En revanche, après un délai souffert de ma part de 10 ans, on n'a plus du tout de déduction possible. Pour un propriétaire qui aurait bloqué un taux à 10 ans, les seules mesures qu'il aurait, c'est éventuellement de changer son emprunt hypothécaire, mais avec les pénalités qui vont avec. Et puis cette pénalité n'est pas déductible, elle peut être utilisée lorsqu'on revend pour l'impôt sur les gains immobiliers en tant qu'impense, mais en pratique, ils seront quelque peu pénalisés. Alors peut-être l'avantage qu'ils ont, c'est quand même de bloquer un taux à 10 ans relativement bas ou intéressant, c'est ça qui pousse les gens souvent à bloquer aujourd'hui sur le long terme. Donc ils ont quand même cet avantage-là. Par contre, il n'y aura pas d'autres mesures transitoires qui permettra de débloquer ces taux, et je ne pense pas que les banques non plus vont faire de cadeaux dans ce sens-là.
Ouais, bien sûr. Donc c'est vrai qu'avec ces changements, du coup, finalement, il y a peut-être aussi d'autres stratégies qui doivent apparaître. Typiquement, est-ce que finalement j'achète toujours en nom propre? Est-ce que j'achète en société?
Oui.
Via une SA ou une SARL.
Oui.
Et c'est vrai que ce sujet-là, on l'avait souvent, mais avant, en nom propre, ça suffisait. C'est vrai que c'est un vrai sujet qui revient sur la table. Et c'est vrai que, en tant que courtier, nous, au niveau des financements, c'est vrai que les contraintes, elles sont des fois un peu plus lourdes au niveau des banques, ce qui est normal, finalement, parce que elles veulent se sécuriser, finalement. Donc, des fois, il faut peut-être amener plus de fonds propres, des taux un petit peu plus élevés, etc., etc. Et puis, finalement, aussi beaucoup plus strict sur la partie, accord de financement. Et un autre point aussi qui est important, c'est qu'on peut pas du coup utiliser ces avoirs de prévoyance, que ce soit du troisième pilier ou du deuxième pilier. Et du coup, on perd un petit peu cet effet de levier. Donc du coup, avec la perte de ces déductions en nom propre, donc la question, elle est toute simple. Est-ce qu'on a meilleur temps de lever son immobilier dans une société? Et puis finalement, quels sont les vrais avantages et un petit peu les pièges fiscaux à éviter?
Oui, c'est un bon point. C'est vrai que ça va beaucoup dépendre de la structure et puis de la vision qu'on a sur le patrimoine immobilier. Par le passé, je dirais, souvent la résidence principale et là où les résidences secondaires étaient détenues en propre, et puis ça soulevait pas forcément de questions particulières parce qu'on avait ces mesures qui étaient relativement avantageuses en termes de déduction. Et puis la société immobilière, c'était une société qui était plutôt utilisée quand on voulait vraiment développer un patrimoine immobilier, qu'on avait plusieurs biens. Et puis en fait, on pouvait thésauriser ces montants dans une société qui était moins imposée, puisque la société, finalement, juridiquement, c'est une entité propre. Ça venait pas s'additionner à nos propres revenus, ce qui crée des impositions fortes pour les propriétaires immobiliers. Maintenant, je dirais qu'à futur, on a beaucoup parlé du fait de mettre sa résidence principale dans une société. Ça soulève tous les problèmes de financement que tu as évoqués. Ça veut dire les règles beaucoup plus strictes au niveau du financement bancaire, le fait de ne pas pouvoir utiliser, c'est d'avoir deux, troisième pilier. Et puis, aussi, d'un point de vue fiscal, le fait de devoir payer un propre loyer à sa société. Donc, faut pas l'oublier. Quand je transfère ma résidence principale ou que j'utilise un actif qui est dans une société, en fait, je suis un tiers vis-à-vis de cette société d'un point de vue fiscal et je dois payer un loyer qui correspond à celui en principe d'un tiers. Donc, c'est un coût relativement important finalement. Et puis moi, à titre de première approche, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je recommanderais pour une personne qui a juste un bien immobilier. L'avantage, par contre, d'avoir une société ou d'avoir un bien immobilier détenu par sa société, c'est que tous les frais d'entretien seront déductibles au niveau de la société. Ça, c'est l'avantage principal, je dirais. Mais en dehors de ça, pour une personne qui achète son appartement en résidence principale, je le ferai pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des obligations déclaratives, légales. On doit constituer une société, on doit remplir une déclaration d'impôt, on doit quand même faire une comptabilité, même si elle est très simple. Donc, ça engendre aussi d'autres frais. Je suis pas convaincu que ça fasse du sens pour un bien immobilier. Pour la partie des biens de rendement, J'aurais aussi une approche qui est similaire, hein, parce que pour les biens de rendement, on va continuer à pouvoir déduire des frais d'entretien et des intérêts passifs. Donc, dans ce cadre-là, c'est peut-être une situation qui est moins pénalisante. Dans ce cadre-là, je dirais, si vous avez un ou deux biens immobiliers qui permettent aussi, on va dire, de compenser vos revenus et puis qui sont utilisés ou dont les rendements sont utilisés pour assurer votre train de vie, je ne les placerai pas forcément dans une société. En revanche, sur une perspective qui est plus long terme et puis que on souhaite vraiment développer un patrimoine immobilier, qu'on n'a pas besoin de cet argent et puis qui reste dans la société, on le thésaurise pour justement acheter d'autres immeubles ou investir, là, pour moi, ça ferait du sens de constituer une société immobilière de détention d'immeubles de rendement.
Ok, super. Bon, c'était ma question d'après. Donc,
on peut y participer.
Cool. Du coup, toi, parlons peut-être à titre personnel. Si tu achetais aujourd'hui, plutôt nom propre, société, puis peut-être revenir un petit peu sur, juste avant, justement, avec la stratégie bâtir à long terme, peut-être pour sa retraite ou justement se dégager des revenus tout de suite. Qu'est-ce serait la stratégie alors, entre résidence principale et bien de rendement? Donc, si j'ai bien compris, résidence principale, je pense qu'il n'y aura pas de changement finalement, tu ne conseilles pas. Et du coup, sur du bien de rendement, tu vas le conseiller peut-être un petit peu plus, mais est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une règle à partir de deux biens de rendement ou est-ce que un... C'est vrai que c'est souvent la question que nous, on a et puis c'est toujours intéressant d'avoir ton avis.
Ouais. Écoute, j'ai acheté il y a 2 ans, donc ça tombe bien. C'est vrai que moi, je l'ai acheté en nom propre parce qu'on n'avait pas encore cette thématique et puis cette réforme qui était votée et puis qui entrera en vigueur. De nouveau, pour le bien propre, souvent aussi, les résidences principales, c'est des biens qu'on souhaite garder et puis qu'on garde sur le long terme. On utilise à titre privé, donc voilà, je recommanderais de nouveau de le garder en nom propre, c'est plus simple. En plus, on sait qu'on sera imposé potentiellement à la vente, à l'impôt sur les gains immobiliers. Plus on garde un bien immobilier en détention propre, longtemps, moins on est imposé. Donc globalement, je dirais, il faut garder ses biens à titre privé. Pour les biens de rendement, c'est vrai que comme tu dis, c'est toujours compliqué. Il n'y a pas de règle, hein, ouais. Parce qu'un bien peut générer énormément de rendement ou peut représenter un seul appartement en PPE. Je dirais que le thème qui est très important, c'est alors le financement. Est-ce que la banque suit déjà le projet? Et puis ensuite, c'est de se dire, est-ce que j'ai besoin de cet argent pour vivre? Est-ce que les loyers qui vont rentrer, j'en ai besoin? Si j'en ai pas besoin, dans ce cas-là, je me dirigerai plutôt vers une société immobilière. Et puis, si en revanche, j'en ai besoin, ça sert pas à grand-chose, en fait, parce que finalement, les rendements immobiliers seront imposés dans la société. Et puis ensuite, pour les prélever, on doit se verser des dividendes qui sont fiscalisés ou du salaire qui est fiscalisé. Peut-être le seul avantage qu'on pourrait trouver, c'est si vous détenez des biens immobiliers dans votre fortune privée, là, il faut analyser l'opportunité de transférer ces biens dans une société immobilière. Pourquoi ? Parce que quand on les transfère, en fait, on a des avantages à porter des immeubles contre une dette. Et là, ça devient vraiment une super opportunité parce qu'en fait, vos rendements immobiliers seront imposés au niveau d'une société. Et puis le jour où vous avez besoin de prélever cet argent, vous pouvez vous rembourser en fait la créance que vous avez envers votre société. Et ça se passe dans une zone en fait qui n'est pas fiscalisée. Donc là, on a un réel avantage. Souvent, c'est des projections aussi sur le long terme parce que vous avez quand même des coûts au transfert, hein. Vous avez le notaire, vous avez les droits de mutation, vous avez potentiellement de l'impôt sur les gains immobiliers. Donc voilà, c'est des calculs à faire pour savoir est-ce que c'est vraiment avantageux ou pas.
Ok, super. Donc en résumé, on a fait un bon tour sur la valeur locative, mais avant d'acheter, je pense qu'il faut venir voir quelqu'un comme toi. Je pense que c'est.
Oui, je pense que pour
nous, c'est presque, t'es presque peut-être la clé de tout pour être sûr de pas se projeter. Je pense que même, il faudrait que de plus en plus, mais presque même avant le financement, moi, je crois que c'est presque le plus important.
Oui, c'est important de se poser les bonnes questions. Et puis, c'est surtout de se poser les bonnes questions à l'acquisition, pendant la durée de vie du bien immobilier, et puis à la sortie aussi, quand je revends, pour avoir cette approche globale, parce qu'il n'y a pas une solution miracle pour tout le monde, en fait. Chaque situation est très individuelle.
Ouais, donc bien préparé en amont. Ok, donc on a fait le tour de la valeur locative, je crois. Maintenant, un autre sujet qu'on avait peut-être vu un peu moins venir, parce que la valeur locative, je crois que ça revenait un peu tous les ans.
Oui.
L'imposition individuelle, donc c'est un vrai grand changement, je crois.
Oui.
On parle souvent, du coup, de la fin de la pénalité de mariage. Mais c'est vrai que les statistiques de l'EFS nous montrent quand même une réalité claire. La majorité des ménages suisses, donc surtout les hauts revenus, donc ont des revenus asymétriques. Et c'est vrai que gérer une famille avec deux carrières en sous-pourcent, bah, c'est, je crois, devenu presque impossible. Donc, en quelques mots, l'imposition individuelle, qu'est-ce que cela change concrètement sur la déclaration d'impôt d'un couple marié?
Oui, alors ça change tout. Et puis c'est là que je pense que ces sujets en fait de votation sont importants. L'intention politique derrière, elle est louable. Par contre, la mise en pratique, elle est compliquée. Je sais pas si les gens qui ont voté sont rendus compte hein, de l'impact que ça a. L'objectif, comme tu l'as dit, c'était de dépénaliser le mariage parce qu'on vivait selon le principe qu'en fait les gens qui étaient mariés étaient plus lourdement imposés. En contrepartie, on disait qu'ils vivaient de manière commune, donc ils avaient peut-être moins de frais de la vie de tous les jours. Cette votation, elle a pour impact en fait de supprimer en fait l'approche, on va dire, conjointe des mariés. Ça veut dire que chacun devra déposer une déclaration d'impôt à titre individuel. Et puis, on va aussi supprimer beaucoup de déductions fédérales, typiquement la déduction pour le double travail, la déduction pour les conjoints. Et puis, l'avantage principal, quand même, c'est qu'on va supprimer l'effet de la progressivité du taux. Hein. Donc, avant, les gens qui étaient mariés, en fait, leurs revenus étaient additionnés. Au niveau fédéral, ils avaient un barème un peu moins important. Et puis, chaque canton pouvait prévoir des barèmes spécifiques, ce qui était fait et qui marchait en pratique. Le problème, c'est qu'aussi, on va déclencher un nombre de questions et de problématiques à traiter qui est relativement important. Et puis, ça va fondamentalement changer l'approche qui était prévue, d'abord pour les couples mariés, mais aussi pour les personnes individuelles. Il y a pas mal d'études hein, qu'on a fait analyser l'impact sur la typologie en fait, des ménages. Et puis, comme tu le dis, hein, je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où en fait, les deux partenaires travaillent. Donc, on a cette accumulation de revenus, ce qui n'était pas le cas peut-être par le passé. Hein, on avait vraiment cette position où l'un travaillait beaucoup. Souvent, c'était l'homme qui travaillait beaucoup et puis la femme qui restait à la maison hein, pour éduquer les enfants. C'est un peu un cliché, mais c'est un cliché démographique qui existait quand même. Puis aujourd'hui, on voit qu'on change les rôles. Donc, je dirais que globalement, cette votation, elle aura un effet positif pour certains contribuables, d'autres perdront. On sait que les revenus, enfin les couples qui ont deux revenus relativement symétriques vont bénéficier de l'avantage justement par la baisse du taux qui sera applicable. En revanche, les situations où vous aviez un revenu fort et puis un revenu modeste, voire quasi inexistant, ceux-là vont être pénalisés. Peut-être le dernier point aussi, et je pense que c'est l'aspect le plus inconnu aujourd'hui de cette réforme, c'est qu'on a voté sur des règles fédérales. Par contre, on n'a pas voté sur les règles cantonales. Personne ne sait aujourd'hui ce qui va se passer au niveau cantonal. C'est le problème le plus important pour moi parce qu'en fait, le prélèvement fiscal le plus important, c'est quand même au niveau cantonal communal. Et puis là, aujourd'hui, sincèrement, on n'a aucune information sur ce qui va se passer avec une entrée en vigueur qui sera prévue en 2032 normalement.
Quand tu dis aucune info, alors toi qui travailles aujourd'hui sur Neuchâtel depuis quelques années, mais je crois que tu as aussi travaillé à Genève,
oui.
Dans ces deux cantons-là, on ne sait pas.
Non, pour l'instant, comme je le dis, on ne sait pas comment ça va être mis en place. Il y aura probablement des groupes de travail qui vont se mettre en place au niveau des autorités fiscales suisses, donc au niveau de l'IFD à l'administration fédérale des contributions et entre les cantons. Oui. Mais aujourd'hui, on n'a strictement aucune idée. Ce qu'on sait en revanche, c'est que les barèmes qui étaient prévus dans chacun de ces cantons, donc à Neuchâtel, typiquement le splitting, dans le canton de Vaud, on avait des quotients familiaux, tout ça va être supprimé, donc on n'aura pas le choix de ne pas le supprimer. Et puis, il y aura une certaine marge de manœuvre qui sera laissée au canton pour mettre en place des déductions spécifiques pour essayer de compenser en fait la suppression de ces barèmes. Mais aujourd'hui, sincèrement, on n'a aucune idée de ce qui va se passer à futur.
Ok. À voir, du coup.
Oui.
Du coup, là, une question qui me paraît aussi intéressante, mais plus pour nous sur la partie financement.
Oui.
C'est vrai que tout à l'heure, on parlait qu'on aime bien faire des conseils à 360 degrés en parlant de fiscalité. Alors, pas aussi poussé que ton métier, parce que je crois que c'est un cachon de job. Nous, c'est vraiment orienté juste sur le financement. Par contre, là, je vais poser une question que je pourrais ressortir peut-être à mes clients. Mmh. C'est vrai que nous, on aborde quand même le sujet du TMI. Et du coup, qu'est-ce qu'est le TMI, le taux marginal d'imposition?
Alors, le taux marginal d'imposition, en fait, c'est le taux qu'on atteint lorsqu'on a des revenus et une fortune relativement élevée. Donc, c'est le taux maximum d'imposition. On sait que dans la plupart des cantons, en tout cas au niveau romand, hein, on l'atteint. Enfin, le taux maximum est à peu près à 40%. Puis au niveau de l'impôt sur la fortune, on est aux alentours des 0,7 ou 1%. Donc ce taux, avant, il était atteint relativement rapidement parce qu'on avait le cumul des revenus et de la fortune. Comme je l'ai dit, hein, pour contrer un peu le fait de cette progressivité du taux et cette accumulation des revenus, on avait des quotients familiaux ou des règles de splitting pour la détermination du taux. Maintenant, à futur, on aura ce changement dans les barèmes au niveau fédéral. Au niveau cantonal, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Mais l'objectif, en fait, c'est de réduire, en fait, la facture fiscale pour les revenus qu'on dirait modestes à moyens. On a toute une tranche, en fait, qui sera pas forcément beaucoup impactée, hein, entre, je dirais, 100 000 et puis 5, 600 000 francs. Et après, il y aura une imposition un peu plus forte pour les revenus les plus élevés. On parle de plus de 700 000 francs de revenus imposables à la fin de l'année.
Ok, intéressant. Du coup, tout à l'heure, on a parlé de la fin des déductions, notamment des rénovations, qui était quand même un joli levier fiscal.
Oui.
Là, avec l'imposition individuelle, elle avait quand même, pour moi, je pense, en Suisse en tout cas, le levier fiscal le plus intéressant et peut-être même au monde, je pense, c'était les rachats dans la caisse de pension, donc le
Oui.
rachat LPP. Là, finalement, il va dépendre de celui qui le fait dans le couple. Est-ce que c'est la fin des rachats LPP, justement?
Alors, c'est pas la fin des rachats LPP, mais ça soulève une grosse problématique. Comme on l'a soulevé avant, chacun va remplir sa déclaration d'impôt de manière individuelle. Et puis, c'est vrai qu'avant, on pouvait trouver des solutions de rachat LPP parce que tout était, on va dire, réuni sous une déclaration d'impôt. Peu importe qui faisait le rachat, peu importe qui le finançait aussi, en définitive, c'était déduit du revenu global. Maintenant, chaque personne sera individualisée d'un point de vue fiscal, individualisée pour les rachats LPP, individualisée pour les frais d'entretien aussi des immeubles, individualisée pour les intérêts passifs qui sont passés, individualisée aussi, on n'en parle pas assez, mais pour les acomptes d'impôts. Donc il y aura une
Désolidarisation.
désolidarisation des acomptes d'impôts, ce qui veut dire aussi que potentiellement le fisc ne pourra plus compenser les acomptes, il n'y aura plus un compte d'impôt commun, chacun aura son compte d'impôt séparé. Donc c'est vraiment une fracture par rapport à ce qui se passait par le passé. Et puis en termes de rachat LPP, c'est vrai qu'on peut s'interroger aussi sur l'effet qui était très efficace avant de pouvoir racheter au niveau du couple, hein. Et puis cette mesure, en fait, elle sera appliquée de manière standard, individuelle, comme une personne seule. Donc là, c'est clair qu'il faut planifier aussi, pas rapidement, hein, parce qu'on a vu la réforme, elle monte en 2032. Vous savez, il y a toute une tranche de la population. Souvent, ces rachats sont plutôt effectués par des personnes qui dépassent les 50 ans, hein. C'est là que ça devient intéressant et qu'on a un potentiel de rachat important. C'est vrai que là, il faudrait planifier pour se poser les bonnes questions et puis potentiellement faire des rachats avant l'entrée en vigueur de
Du coup,
cette
c'est
réforme.
ça qui est intéressant, parce que tu dis 50 ans, oui, c'est le cas maintenant, parce que finalement, on dit souvent, tu fais tes rénovations, que tu déduis, puis à 50 ans, tu as fini de rénover, puis là, tu fais tes rachats LPP, mais ça sera plus forcément le cas aujourd'hui. Donc, est-ce que ça va peut-être pas changer un petit peu le jeu de tout ça, puis avec des rachats LPP plus récents dans la vie, quoi?
Oui, alors c'est possible que les gens prennent cette mesure parce que, comme on l'a dit avant, hein, il n'y aura plus de déduction des frais d'entretien non plus. Enfin, ce sera terminé finalement en 2029 pour la résidence principale. Donc en fait, il y a une nouvelle stratégie à mettre en place. Il y a aussi toute la question de savoir, avec l'imposition individuelle, hein, maintenant quand j'ai des biens de rendement, comment est-ce que j'attribue mon bien? Est-ce que je l'ai à 50-50? Est-ce que je l'ai à 30-70%? Quand je fais des travaux importants, ça reste potentiellement déductible. Donc voilà, c'est toujours une mesure qui est intéressante. Puis après, comment je le compile ou comment je le conjugue avec mes rachats LPP en fonction du revenu de chacun. Et c'est là que ça va devenir très sensible, très complexe. Alors ça va nous donner, je pense, beaucoup de travail, mais je suis pas sûr que les contribuables ont saisi l'impact de cette réforme. En termes de frais aussi, il faudra remplir deux déclarations d'impôt au lieu d'une.
Ouais, clairement, il y aura pas mal de boulot en
Il y aura pas
plus.
mal de travail, ouais. Du coup, on a fait le tour des deux réformes. Maintenant, on va essayer de les superposer, peut-être avec des cas un petit peu plus concrets. Donc, un cas, on va dire, on s'est basé sur voilà un couple avec des hauts revenus donc asymétriques, donc monsieur un gros salaire, madame travaille à temps partiel, qui souffre donc du double impact de ces nouvelles lois. Clairement, ils sont pleinement touchés et c'est beaucoup le cas, je pense. On va essayer de chercher des solutions pour eux. Donc, comment doivent-ils structurer leur patrimoine entre leurs biens en détention propre, résidence principale, et éventuellement des biens de rendement? Alors, en effet, hein, le risque en fait de la réforme de l'imposition individuelle et puis de la suppression des déductions fiscales, c'est de savoir comment on va réorganiser le patrimoine. Mais dès le moment où on se pose la question de la réorganisation du patrimoine, on doit déjà se poser la question des impacts fiscaux. Ça veut dire que je ne peux pas restructurer, par exemple, une détention immobilière qui est à 50-50, à 70-30, potentiellement sans impact. Notamment, je vais devoir passer chez le notaire, c'est des frais. Je vais devoir aussi enregistrer mes actes au niveau du registre foncier. Pour les transferts entre époux, alors peut-être le seul avantage, c'est que souvent, on peut trouver des moyens pour éviter l'imposition où il n'y a pas d'imposition entre époux, mais ça va quand même engendrer des frais qui peuvent être relativement importants et puis qui ne sont pas attendus aujourd'hui dans la détention actuelle. En pratique aussi, quand on a une répartition des déductions hein, au niveau de l'imposition individuelle, ce sera potentiellement, dans ton cas, hein, pour le revenu asymétrique qui est peut-être plus faible, on ne pourra plus attribuer une partie des déductions au salaire haut de manière fictive. On va vraiment répartir 50-50. Donc en fait, comme j'aurai une base d'imposition moins importante, voire inexistante dans un revenu, j'aurai une perte de déduction, typiquement hein, pour les frais d'entretien des enfants, frais de garde, toute cette partie-là, qui aurait pu être déduite en fait du revenu, on va dire fort, et qui ne le sera plus. Donc là, on va créer un peu une augmentation de l'imposition dans ces revenus asymétriques qui est dérangeante. Le moyen un peu de potentiellement de compenser ces éléments-là, c'est d'octroyer une part plus importante au revenu qui serait plus élevé, parce que lui, il a un potentiel de déductibilité, hein, que ce soit par exemple pour les immeubles de rendement, pour les rachats LPP, pour les frais des enfants. Et puis là, on aura un impact plus important parce qu'on aura des déductions, on va dire, qui seront pleinement utilisables, contrairement aux revenus qui seraient moins importants. Ça crée une asymétrie aussi au niveau du couple, hein. Et puis, c'est là qu'aussi, on peut se poser des questions pour la suite. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe en cas de séparation, en cas de décès, en cas de partage successoral. Voilà, c'est tous des aspects qui auront un impact ultérieur.
Ok, c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis, c'est à la fois très complexe, mais du coup, tu as parlé des répartitions, etc. En fait, du coup, ce que tu es en train d'expliquer, et on le verra par la suite, mais est-ce qu'il faut tout simplement sortir du schéma classique où c'est qu'on achète à 50-50, et puis du coup, bah, revoir aussi les parts au niveau du registre foncier?
Alors potentiellement, il faut le faire. Ce qui m'embête, c'est qu'en fait, pour des motifs fiscaux, on est en train de déformer la structure patrimoniale des gens. Et puis ça, je pense que c'est une très mauvaise approche. Je ne sais pas si la plupart des contribuables le feront, mais c'est clair que si ça augmente la facture fiscale chaque année, ben, ce sera un élément à étudier. Et puis aussi, le problème, c'est que en redéfinissant un peu ces cartes, ben finalement, quand on va revendre ultérieurement, on va créer aussi d'autres problèmes. Toute la question aussi qui est problématique aujourd'hui, c'est la question des apports. Ça veut dire que quand j'ai acquis un bien à 50-50, que je fais un apport à 50-50, comment est-ce que je m'assure que quand je déforme entre guillemets ces quotes-parts, eh ben finalement, j'arrive toujours à respecter les règles qui ont été définies au début. Et là, c'est important aussi de s'approcher, je pense aussi des notaires hein, qui seront en charge de ces transactions, pour assurer de documenter correctement en fait la manière dont les apports ont été effectués. Ce que je vois dans ma pratique, c'est que quand on a une vente des années plus tard, hein, potentiellement il y a une séparation, mais l'ex-époux ou l'ex-épouse est resté dans le bien. Et puis qu'on a une part au gain, finalement, si on a fait un apport 50-50, on peut se demander comment est-ce que le gain sera imposé? Est-ce que la personne qui n'habite plus dans ce bien peut quand même récupérer 50% ou pas? Et puis là, c'est des éléments qu'il faut absolument documenter, structurer et puis suivre avec le notaire pour qu'à futur, qu'on a une vente, eh ben, en fait, le fisc comprenne la situation et puis suive la réalité économique des choses.
Ok, donc ça veut dire que aujourd'hui, les apports ils doivent forcément correspondre aux quotes-parts du registre foncier?
Oui, alors les apports, ils doivent correspondre au code-part. Sinon, c'est une donation entre les époux. Ça pose peu de problèmes, de nouveau, parce qu'on n'a pas d'impôt sur les donations en ligne entre époux, hein, dans tous les cantons. On en a en ligne directe avec Neuchâtel, qui est parfois un peu le mauvais élève, et le canton de Vaud. Donc là, il y a peut-être moins de questions, mais entre époux, en général, il n'y a pas d'imposition. Mais c'est le cas aussi pour tout. Donc, on a une détention 50-50. Les apports doivent être à 50-50. La participation aux frais doit être à 50-50, hein, aux frais d'entretien. La participation aux intérêts passifs doit être à 50-50. Et du coup, ça va créer aussi toute une problématique en termes d'imposition individuelle, parce que à futur, on va complètement séparer les éléments fiscaux dans deux déclarations d'impôts. Donc, on ne va plus travailler en équipe ou en couple, hein, en se disant, moi, je vais payer tous les frais d'entretien ou je vais payer tous les intérêts passifs, respectivement. Les intérêts passifs ne sont au nom que d'un des deux époux. C'est lui qui pourra déduire ses intérêts. Il n'y aura plus d'approche commune. Et là, vraiment, ça pose pas mal de problèmes. Et je pense aussi aux mandataires qui vont devoir préparer les déclarations d'impôts et puis aux autorités fiscales qui vont devoir appliquer ça. Ça va être beaucoup de travail, en fait, pour mettre ça en place de manière correcte.
Ok, ouais, clairement, clairement. Du coup, comme tu disais, ça crée un fort déséquilibre,
Oui.
ces nouveaux montages. Et on n'a pas parlé d'un cas quand même, peut-être si on peut aller un petit peu plus loin dessus, mais ça sera quoi les impacts et les dangers de cette structuration en cas de divorce, justement?
En cas de divorce, alors ça dépendra de la nature du régime matrimonial, mais en termes de répartition, en fait, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, on peut avoir une partie qui est entre guillemets faible parce qu'il y a eu cette restructuration et puis parce que les actifs sont détenus plus de manière symétrique, mais de manière asymétrique. Donc là, de nouveau, on peut se demander, est-ce qu'on va devoir revoir certains contrats de mariage pour réaffecter finalement des parts ou réaffecter l'attribution des biens dans le cadre du mariage et puis en cas de divorce, mais ce qui crée de nouveau, on va dire, du travail pour les notaires, mais aussi des complexifications dans ces domaines qui aujourd'hui est établi pour des couples mariés qui fonctionnaient très bien. Donc c'est vrai que là, on peut se poser cette question, et puis je pense qu'il faudra aussi remodeler potentiellement des contrats de mariage.
Ok. Donc, on a parlé du divorce. Maintenant, on va parler peut-être de déséquilibre avec les successions. Donc, comment protéger le conjoint survivant dans ce schéma? Est-ce qu'il y a des leviers aussi peut-être pour éviter de payer trop d'impôts ou tout simplement en cas de décès? Donc, peut-être que ouais, il y a un vrai sujet là aussi, quoi.
Oui, alors en effet, c'est un sujet en termes de succession, notamment si on a un conjoint qui est du coup défavorisé dans le cadre de l'imposition individuelle, puis de cette réattribution du patrimoine. C'est vrai que le conjoint survivant qui aura une part moins importante, potentiellement, il pourra être défavorisé. Pourquoi? Parce qu'en cas de décès, on a d'abord la liquidation du régime matrimonial, puis ensuite on a une répartition entre le conjoint survivant et les héritiers, donc qui sont les enfants. Potentiellement, si la personne, dans la réorganisation de ce patrimoine, elle détient plus d'actifs ou peu d'actifs, elle pourrait se voir un peu, on va dire, se retrouver dans une situation un peu moins favorable que si tout était détenu à 50%. Puis là, de nouveau, il y a des moyens aussi de contrer ces éléments en mettant en place des testaments ou des pactes successoraux ou en prévoyant des dispositions pour cause de mort spécifique. On peut aussi prévoir, mais il faut le faire avec l'accord des enfants, de prévoir des droits d'habitation ou des droits d'usufruit. Alors le droit d'habitation, c'est uniquement sur les immeubles, hein, en principe. L'usufruit peut se faire aussi sur des titres, sur des biens immobiliers. On peut mettre ce genre de choses en place, mais de nouveau, ça va créer beaucoup de questions en termes de, voilà, on parle de droits d'usufruit. Pour l'usufruit, on a des méthodes de calcul en tant que couple marié séparé. Et ben là aussi, l'imposition individuelle, elle va refondre tous ces éléments. Et puis, on n'a aujourd'hui aucune idée de la manière dont vont être calculés ces éléments à futur.
Ah, excellent. Mais c'est vrai que j'avais une dernière question, mais enfin, on va y venir. Mais finalement, c'est vrai que dans le schéma aujourd'hui, les gens, ils regardent leur financement, ils regardent leur enveloppe, puis après, ils vont faire des visites. Et du coup, ma question, c'était à quel moment ils doivent venir te voir. Mais si je comprends bien, en fait, dans le schéma futur qui va arriver tout prochainement, est-ce que finalement, la première personne à aller voir, c'est peut-être des conseillers fiscalistes comme toi?
Oui, alors on peut se poser la question. C'est vrai que le fiscal intervient souvent après le financement, après qu'on ait trouvé le bien immobilier, puis on se pose ces questions un peu après. Je ne pense pas qu'il faut venir avant. Par contre, je pense qu'il faut avoir une approche vraiment à 360 degrés dès qu'on rentre dans ces thématiques et puis dès qu'on pense à acquérir un bien immobilier. Parce que si aujourd'hui on doit penser à la manière dont on va financer, comment on apporte ses fonds propres, et puis en règle générale, l'approche c'était la détention 50-50 hein, pour des concubins ou des personnes mariées. Aujourd'hui, on va devoir se poser la question sur la manière potentiellement de structurer juste dès le départ, sachant qu'il y a beaucoup d'inconnus, hein. Est-ce que j'aurai des enfants à futur? Qui aura les revenus les plus hauts? Est-ce que l'un ou l'autre va travailler, ne va pas travailler? Donc en fait, c'est très difficile de planifier ça sur du moyen long terme, alors que bah, l'acquisition et la détention immobilière, pour moi, elles doivent se faire sur du moyen, voire du long terme.
Ok. Non, très intéressant. En tout cas, je te remercie infiniment, Joachim, pour ton expertise.
Avec plaisir.
À vous qui nous écoutez, finalement, j'espère que cet épisode vous aura prouvé qu'un bon financement immobilier ne se résume pas à un simple taux d'intérêt, mais qu'il s'inscrit dans une véritable stratégie patrimoniale et fiscale globale. Donc, faut pas attendre du coup sur ces réformes pour agir, parce qu'il y a encore plein d'avantages à utiliser aujourd'hui, et il y en aura aussi demain, on en est persuadé. Donc, l'équipe de Rezaos se réjouit de vous accompagner en tout cas dans ces réflexions, avec des experts comme Joachim. Et puis, bah, merci de nous avoir suivis, et à très vite pour un prochain épisode.
Merci, bonne journée.